nécessaire pour éclairer les choix que doit faire la société, doivent parler, et après s'être concertés, avoir débattu, d'où la question, débattre, comment se donner des lieux, qui peut faciliter ces débats. Alors là, c'était peut-être à l'intérieur de l'Église, mais moi, j'y reviendrai d'ailleurs. Mais je l'élargis au niveau de la société. Heureusement qu'il y a la société civile qui permet, dans des associations, des syndicats, certains mouvements, d'échanger, de débattre, effectivement. Mais au niveau proprement politique, on est quand même squelettique. C'est-à-dire qu'on vient débattre avec nous quand on a besoin de nos voix. On peut le chef de vache, mais c'est quand même vrai. Regardez les municipales, bon, évidemment. Mais une fois qu'elles sont finies, ne répétez pas. C'est le même point. D'ailleurs, dans un conseil municipal, si un assistant prend la parole, le conseil municipal est invalide. Alors, c'est quand même extraordinaire, ça. Enfin, bref. Donc, il y a toute cette question-là. Alors, ensuite, les valeurs démocratiques sont évangéliques. Peut-être les valeurs, oui. Et la manière dont on les vit. Moi, je suis quand même. Tout à l'heure, je vous parlais du respect de l'être humain. En disant, j'en fais une question de principe, quoi. Mais je suis vraiment meurtri quand je vois un certain nombre d'annonces tenues. Je prends les immigrés du naufrage au large de Lampedusa, par exemple. Les démocraties sont là. Ça fait des années que ça dure. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change, cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens ne soient pas obligés de quitter, de se ruiner d'abord, de ruiner leur famille pour venir chez nous dans le mirage de trouver enfin de quoi faire subsister leurs enfants? Et la démocratie, là, elle est nulle. Et puis, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels, je veux dire, les droits de l'homme, enfin, est-ce qu'on les respecte? Et de façon élémentaire, même chez nous, le droit au logement, le droit au travail, je ne suis pas là pour faire une séance de démonstration politique, mais enfin chacune et chacun d'entre nous a ça dans l'esprit. Alors les valeurs, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, excusez-moi, mais je vais rebondir sur la question du débat, parce que je me suis rendu compte, pendant que vous réfléchissiez, vous aussi, je réfléchissais, que je n'ai rien dit des conditions ecclésiales de la décision éthique, ou de la réflexion éthique. Alors, je profite de ça pour en dire trois mots. D'abord, la référence à l'écriture, évidemment. Si on n'est pas nourri de l'écriture, je vois pas très bien comment les repères que j'aurais dit ou que j'ai proposés vont être des slogans. C'est évident. La parole du magistère, théologien éventuellement, s'ils en font partie. Moi, je ne mets pas ça de côté, même si je ne suis pas toujours d'accord. Mais je me dis, le magistère, il tient au milieu de nous au moins deux rôles importants. Un rôle de mémoire, il devrait. Un rôle de mémoire, c'est-à-dire la mémoire de l'histoire chrétienne dans toutes ses composantes. Et deuxièmement, un rôle d'universalité. C'est-à-dire que c'est malheureux quand même quand les églises sont coincées dans les frontières d'une nation et que. Et je dis ça aussi pour Rome. L'universalité uniforme est une négation justement de la particularité de la singularité. Le catéchisme universel, qu'est-ce que c'est que ça, un catéchisme universel? C'est rien. Parce que qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas faire un catéchisme, mais catéchisme pour vous, pour moi. Pour les églises de Chine, pour celles qui sont en Inde, pour celles qui sont en Amérique latine, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Groenland, on est dans une situation culturelle, sociale, historique, économique, complètement différente, et on voudrait avoir la même doctrine valable pour tous. Ça n'est pas tout. Si c'est des repères, d'accord, mais c'est pas un truc qui peut s'appliquer en tout cas. Donc, la nécessité d'une communion dans la différence. Et ça, c'est le grand défi de l'Église d'aujourd'hui, c'est devant lequel se trouve l'évêque de Rome, François. Comment faire passer l'Église catholique d'une uniformité hiérarchique à une communion des différences. Et ça, je pense que ça fait partie du magistère que de faire tenir cette dimension de catholicité, d'universalité. Voilà. Et puis, le troisième point que je voulais ajouter, c'est le dialogue. Alors, c'est exactement la question qui est posée, d'où la question où débattre, comment se donner des lieux, qui peut faciliter ces débats. Alors, c'est encore encore une chose que j'ai dit dans mon bouquin que j'ai pas dit tout à l'heure, un étonnement. Comment se fait-il qu'une partie des chrétiens, quand l'Église, je répète quelque chose que j'ai appris de Jean-Marie Onfray, qui est théologien à Tours, mais comment se fait-il qu'une partie des chrétiens très engagés au plan politique, économique, social, qui se décarcassent, qui sont en diaconia, si vous voulez, avec toutes les formes que ça peut avoir, et dans toutes les dimensions très justes qui ont été reprises cette année dernière, dans cette réflexion-là, comment se fait-il que ces chrétiens-là, quand le magistère prend des positions sur des questions de vie personnelle, familiale, disent « mêlez-vous de vos oignons ». Et comment se fait-il que les gens de la manifestation, pour tous, comme ça, quand l'Église prend des décisions, enfin, porte des jugements sur le domaine économique, social et politique, ou l'armement, lui disent « mêlez-vous de vos oignons ». Enfin, c'est quand même curieux quand il y a une partie des chrétiens qui soient complètement sociaux et allergiques aux questions d'éthique personnelle, familiale, et l'inverse. Il faudrait quand même que dans nos communautés, on puisse un jour s'expliquer là-dessus. On doit bien avoir de bonnes raisons les uns les autres d'être sensibles à un certain nombre de choses et insensibles à d'autres. Il faudrait que dans le domaine de l'éthique, il y ait ces lieux de débat qui sont dans les paroisses, dans les mouvements, dans les je ne sais pas où. Mais il faudrait organiser ça. Alors c'est comme au moins une des qualités de la mission de France, pour une fois, avoir les épaules, que d'organiser ça, c'est constitutif chez nous. On appelle ça la recherche commune, c'est vrai dans les églises, c'est vrai dans les équipes, pardon, dans les assemblées, les universités d'été, c'est un forum continuel d'échanges et de discussions. Mais je pense que ça doit être généralisé partout.
Il est très clair que nous sommes engagés dans des mutations très profondes au
niveau de l'humanité. Bon, vous voyez aussi, il n'y a pas eu longtemps, il y a pas longtemps, il y a eu un document de l'épiscopat sur le transhumanisme. Donc toutes ces recherches médicales sur les nanotechnologies, la bionique, etc., qui visent à non seulement réparer l'homme, le corps de l'homme, son psychique aussi, mais à le perfectionner. La perfectibilité de l'homme, vient une revendication de Condorcet, de Lessing et de Canton. Alors, devant ces défis, devant cette incertitude, moi je comprends que beaucoup de gens soient inquiets, et qu'un certain nombre de familles se resserrent sur le vérifié, c'est-à-dire l'expérience du passé. Bon, c'est pas suffisant, évidemment. On peut pas vivre. Donc, ce passé, c'est extrêmement complexe, ces questions-là. Oui, il faudrait pouvoir détailler tous ces éléments-là. Il y a aussi, des relents de l'histoire vu comme progrès. Ça rejoint la perfectibilité à laquelle je viens de faire allusion. C'est quelque chose qui est mon hippie, moi, enfin, mais je passe sur les nerfs. Mais le terme d'avancée, c'est une avancée. On trouve ça partout. Une avancée de la société, une avancée de l'économie, c'est une avancée. Avancer par rapport à quoi? Avancer vers quoi? On ne sait jamais. Encore, par rapport à quoi? On pourrait à la rigueur le déduire, mais avancer vers quoi? On ne sait pas. Et donc, là aussi, on est dans un horizon très brumeux. Et ça explique pour moi beaucoup de choses comme ça. Alors, ensuite, il y a justement, ensuite, les débats sur le genre aussi, c'est la même chose. Cette incertitude entre nature et culture qui vient depuis Descartes et Pascal. On voit bien que se figer sur une conception de la nature comme un donné intangible, d'abord c'est complètement faux, c'est irréaliste, et jamais l'humanité ne s'était inféodée à une nature qui la détermine de A à Z. Au contraire, toute son histoire, c'est une histoire pour d'abord s'adapter et ensuite la dominer. Bon. Et l'autre côté, l'espèce de relativisme alors culturel qui voudrait dire que finalement, il n'y a pas besoin de cadre, il n'y a pas besoin de normes, voilà, il suffit de mettre des étiquettes sur ce qui se fait, et puis ça marchera. C'est insupportable non plus. Je vois pas que quelqu'un de bon sens puisse accepter ça pour soi-même peut-être, mais pour une société, parce que c'est l'anarchie en fait. Bon, alors là, entre tout ça, je pense que ça explique pas mal de réactions, d'incertitudes et de blocages. Et il faudrait, pour débloquer les choses, non seulement il faut dialoguer, mais il faudrait faire, comme disait Nietzsche, la généalogie de la morale, la généalogie des positions qu'on a prises pour expliquer pourquoi on en est là, on en vient là. Alors maintenant, sur le voyage pour tous lui-même, moi personnellement, je n'étais pas favorable à cette expression-là. Je dis les choses que j'ai vécues. Hein. Quand en 99, je crois, le Pax a été proposé personnellement contre ma hiérarchie, je l'ai soutenu en pensant que c'était tout à fait légitime pour l'État de donner un cadre juridique qui permette à des personnes de se construire mutuellement dans la durée, fidélité, ça c'est le regard, et que c'était tout à fait légitime. Ensuite, s'il fallait le refonder, et j'aurais préféré qu'on prenne comme un pacte, c'est un pacte de vie commune, je crois, en termes de partenariat de vie commune. Ça m'aurait paru plus respectueux des uns et des autres plutôt que d'amalgamer tout et de faire tout et n'importe quoi. Enfin bon, c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi comme dit l'autre.
Alors, il y a une question qui part d'un constat, quelqu'un qui parle de Gagnonia, qui dit qu'il y a très peu de travail sur les causes. Thank you.
ensemble.
C'est ce diagonal que j'ai pensé. Ensemble, les questions d'éthique personnelle de la personne et les questions d'éthique collective, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai apprécié que, donc, ensuite, Diakonia, c'est un mouvement national avec des disparités considérables d'un diocèse à l'autre. Ça a beaucoup de choses ont dépendu de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté d'un certain nombre d'évêques. Il y en a qui ont pris ça complètement à cœur, et d'autres qui l'ont laissé. Je crois que catholique s'en occupe. Je trouve ça très regrettable personnellement, mais dans la préparation de Diakonia, et en particulier dans les notes théologiques qui ont été proposées pour ça, la note théologique numéro 5, elle doit être encore sur Internet, elle aussi, j'ai trouvé absolument remarquable. Parce que justement, elle dépasse complètement l'aspect, comment dirais-je, urgence humanitaire, solidaire, pour remonter aux causes, c'est-à-dire remonter aux politiques, au sens propre du terme, au sens fondamental du terme, et engageant les chrétiens dans le cadre de Diakonia à prendre leurs responsabilités dans les domaines de l'économie, du social et du politique. Et j'ai trouvé ça très bien, parce que je souligne en même temps la convergence du CCFD et du Secours catholique, qui n'a pas toujours été le cas dans les années passées, et aujourd'hui cette marche commune, initiée depuis maintenant ça, presque 10 ans, mais je trouve que c'est tout à fait juste. Voilà. Donc, Diakonia, oui, il faut aller jusqu'aux causes. D'ailleurs, ça me rappelle un texte de saint Augustin commentant l'épître de saint Jean, et qui s'adressait à ses ouailles naturellement, et qui leur disait, bah oui, évidemment, vous donnez des vêtements aux pauvres, c'est très bien, vous les nourrissez, c'est très bien. Mais quand même, s'ils avaient leurs vêtements et s'ils n'avaient pas faim, ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà, ben oui, c'est-à-dire travailler sur les causes de la pauvreté. C'est une des grandes critiques de Nietzsche, d'ailleurs, de l'Église, disant « l'Église, elle a besoin des pauvres pour se faire valoir ». Enfin, c'est à peu près ça. Voilà, et l'autre question, notre partie, c'était « Ah, oui, l'action catholique,
les militants ». La mise en cause de la mission première et de l'action catholique, pourquoi le mouvement chrétien paraît remis en cause?
Je ne sais pas s'il y a une remise en cause voulue. Je m'aperçois, moi aussi, qu'il y a un vieillissement considérable du mouvement d'adultes de l'action catholique et un rétrécissement des troupes des jeunes de l'action catholique, que ce soit JOC, MRJC, JEC ou encore pire. Est-ce que c'était. Je ne pense pas que ce soit une volonté délibérée des responsables de l'Église. C'est peut-être c'est certainement lié, par contre, à. Comment dirais-je ça? Je ne sais pas très bien comment dire ça. Un mouvement culturel dans l'Église, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de jeunes prêtres ou de séminaristes issus des milieux fidèles à la tradition sont en nombre beaucoup plus considérable que les jeunes séminaristes issus de la JOC ou du séminaire de la Mission de France. C'est quand même fait. Pourquoi, là aussi, il faudrait refaire toute une histoire, pourquoi c'est un mot. Pour moi, c'est une énigme, ça. Comment se fait-il qu'à partir du Concile, maintenant, tant de chrétiens ont été engagés à tous les points de vue, se sont vraiment décarcassés, ont mouillé la chemise, et ont tout donné pour participer justement à la libération des peuples, meilleur, plus de justice, etc., etc., et que des enfants de ces chrétiens-là, de ces militants, par conséquent, il y en ait si peu qui soient restés dans l'Église, et encore moins, qui osent prendre des responsabilités dans l'Église, je veux dire, à titre du ministère. Pose question. Mais de l'autre côté, ça fonctionne. Donc il y a un déséquilibre, naturellement, qui fait que, c'est pas voulu, mais c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a une raison beaucoup plus profonde derrière. Parce que ça ne touche pas que la chambre catholique. Moi, je suis un peu. Je ne suis pas terrifié, mais quand même, alarmé quand même. Parce que j'appelle l'effondrement de la dimension historique dans notre société. Bon, pour des gens ma jeunesse, les années 50, 60, 70, quand voilà, je commence à devenir un peu plus vieux, j'ai mes responsabilités, donc là. Mais on était quand même très engagés dans un mouvement historique de libération des peuples, donc on croyait qu'après la colonisation, les peuples indépendants allaient exploser, prendre leur destin en main, etc., etc. Bon, on était dominés dans les années 70 par le marxisme, pas toujours de façon idiote, hein. Enfin bref, il y avait une espérance. Il y avait une espérance qui était portée par l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. On doute de tout. On doute de tout. On déconstruit. Comme on dit, c'est la déconstruction. Ah, ça, pour déconstruire les discours, les métadiscours, on a tout un tas d'intellectuels qui se sont régalés à faire ça, avec toute la valeur de leur recherche. Je pense à Foucault, Deleuze et des gens comme ça. Enfin, on déconstruit, oui, ben ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Remettre deux pierres l'une sur l'autre quand même pour pouvoir traverser la rivière. Bon. Et naturellement, il y avait comme récit aussi. Moi, je me rappelle aussi, Toynbee, Marx évidemment, Hegel, et puis, comment il s'appelait, Jacques Pirenne, et puis toute la collection L'évolution de l'humanité de Henri Behr. Enfin bref, on a vécu avec des récits historico-philosophiques qui donnaient un horizon et qui justifiaient qu'on s'engage. Aujourd'hui, c'est maintenant, l'immédiat. Tout le monde a ses petites écoutilles, on est branché, on est quoi ? L'espace a diminué. Il n'y a plus d'espace. Et il n'y a plus de temps non plus. Évidemment, ça marche ensemble. Donc on vit dans l'immédiat, dans l'instant, c'est tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez ? Que les gens s'investissent dans une action à long terme, de toutes les pesanteurs que ça comporte, et le militantisme, il n'y a pas que chez les catholiques qui s'effondrent. Et ça, c'est encore un service, ça pourrait faire partie des critères aussi. Un service que les chrétiens devraient rendre à la société, de leur rendre une espérance et un sens de l'histoire. Fichtre quand même, quand on est chrétien et qu'on se rallie, enfin on se rallie, on s'appuie sur l'incarnation, qui est l'intervention de Dieu dans l'histoire, par exemple, dans la conférence de Joseph Moy l'année dernière, alors relisez-moi, j'ai dit ça de façon épatante, hein. Voilà, Dieu entre dans le monde, et ça change le monde et ça change Dieu. Et si on est convaincu de cette affaire-là, ça devrait quand même se sentir, se voir, se palper. On est au témoignage et on devrait en témoigner dans la société. On a besoin de nous pour ça, hein. Parce que c'est pas de l'arrêt automatique du marché et de la main invisible que l'espérance va venir. Hein. Ça, c'est sûr. Ça c'est vieux, hein. Ça c'est vieux. Moi je me rappelle des copains de la Mission de France qui étaient poètes ouvriers, engagés très souvent à la CGT, cet été aussi d'ailleurs. Et des deux côtés, suspects. Du côté de la CFDT, suspect de cléricalisme, parce que la CFDT avait fait sa conversion de la CFTC avec des gens, etc., les milieux et des gens comme ça sur la CFDT, donc suspect de cléricalisme. Et du côté de la CGT, suspect d'être des taupes de l'église dans la cassouillère pour la récupérer. Et d'ailleurs, c'était le slogan qu'on avait. C'était pas trop difficile. Voilà. Donc, du côté-là, il y a un héritage. Si vous y ajoutez un certain courant laïciste, celui de notre ami, enfin, entre guillemets, Alain, le fameux député du Var, qui, dans les lois de 1905, pensait que la laïcité, c'était la tolérance. Ce mot se traduit dans mon langage, mais il aurait signé, je pense, la tolérance dans ce qu'on ne pouvait pas éradiquer encore. Voilà. Alors, évidemment, dans tout ce, si tout, il y a tout ça qui explique effectivement. Et puis, je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille. Je veux dire par là que, dans la mesure où un certain nombre de chrétiens mettent en avant le respect, le plus pauvre, ce sont des emmerdeurs. Parce qu'ils empêchent. empêche une action efficace. Et moi, j'ai eu des témoignages comme ça de copains, je pense à un numéro maintenant, un copain de la Mission de France qui était CGT chez Michelin et qui avait de fortes responsabilités dans ce comité de la CGT chez Michelin. Je n'étais pas trop copain tous les jours, vous imaginez bien. Et qui a eu des difficultés avec ses copains de la CGT parce qu'il ramenait toujours la situation des manœuvres, des immigrés, des intérimaires, etc. Alors que la CGT voulait avancer sur des militants, voilà, costauds. On a voté, on avance. Ça suit pas, tant pis, on avance. Et lui était toujours dire, non, il faut toujours regarder le dernier derrière pour refaire notre logique, etc. Donc, l'emmerdeur. Je pense que là, il y a aussi un élément de suspicion sur les militants chrétiens. Les militants chrétiens ne sont pas des gens très courants. Tant pis.
Il y avait aussi une question, une interpellation par rapport à ce que vous avez posé.
Ah.
Et la sécularisation.
Et là.
La sécularisation. Il faut aussi la prendre en compte.
Bien sûr.
Il ne faut pas en avoir peur. Si la personne qui vit un point, je ne comprends pas comment elle
fait. Il y a.
C'est un point, je ne comprends pas comment elle fait.
Ah oui.
Alors, oui. On se demande, on s'est demandé au départ si c'était pas possible. Quelqu'un qui voulait que vous réexpliquiez ce que vous aviez dit entre relativité
et relativité. En fait, ça rejoint un peu le passage que j'ai lu tout à l'heure de Geoffrey aussi. Qu'est-ce que c'est que la sécularisation? La sécularisation, c'est un mouvement. Un mouvement, on pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Enfin, c'est ce mouvement de long détachement, de transfert, on pourrait dire, de ce qui était pris en compte par la religion et qui est basculé sur l'État, au sens le plus général et générique du terme. Voilà. Donc ça a touché le politique, l'économique, l'art, la culture, l'humanitaire, etc. Bref, c'est ça. Moi, comment dirais-je, j'en prends acte, je n'ai pas de... Ça ne m'intéresse rien que d'avoir la nostalgie du temps présent, du temps précédent. Je pense que c'est irréversible. Est-ce que c'est un mouvement, comment dirais-je, universalisable ou qui va s'universaliser? Il y a des jours. Les jours pairs, je pense oui, et les jours impairs, je pense non. Parce que c'est difficile de prendre parti là-dessus. On voit bien que c'est un. Bon, avant, on a dit, bon, c'est les pays du nord de l'Europe. Mais les pays latins, du sud, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ça, c'est des valeurs sûres. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont engagés dans la sécularisation avec grand S et TGV. Le Canada, en 30 ans, basculé complètement, je parle du Canada français, complètement d'un pays hyper catholique, là, tout est rasé. Alors, si c'est comme ça, on dit bah, ça va s'étendre partout. Est-ce que ça va s'étendre en islam? Trop tôt pour le dire. Est-ce que l'islam va inventer une démocratie avec les valeurs qu'on reconnaît sans passer par les crises par lesquelles nous sommes passés, j'en sais rien. Je prends l'autre exemple, très intriguant quand même, la Russie. La Russie, bon, 70 ans d'athéisme, bon, alors ensuite les soubresauts, Khrouchtchev, Gorbatchev, les skis, etc. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Russie, qu'est-ce qui se passe? Le gars avec lequel je vais, maintenant, il va avec le patriarche, la main dans la main, etc. Mais, alors, quelqu'un qui est revenu d'Ukraine il n'y a pas longtemps me dit, mais tu sais, en Ukraine, les églises sont combles, elles sont ouvertes sur la place, et on entend les débouches, les chants d'une église à l'autre, exactement comme au Caire, d'une mosquée à l'autre. Qu'est-ce que c'est transitoire? Est-ce que ça a valeur, la même valeur que la restauration, si vous voulez, après la Révolution française, qui n'a pas duré, pour des tas de raisons? Ou puis le 19e siècle, avec le ressort, il y a eu quand même, au 19e siècle, qu'on dise, un élan chrétien extraordinaire. Regardez le nombre d'églises construites au 19e siècle. C'est fou, le nombre de congrégations missionnaires qui ont été créées à ce moment-là, c'est extraordinaire aussi. Hein. Voilà, alors je ne sais pas, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, chez nous, c'est une très heureuse exception. Voilà. Donc, ce côté-là, si vous avez des doutes sur mes positions, je vous rassure. Maintenant, ensuite, ça c'est la question de Dieu qui est posée. La question de Dieu à l'intérieur d'un pays sécularisé. Dans un pays qui ne l'est pas, Dieu est venu effectivement de la nécessité. Parce que la religion, comme je vous le dis, a un rôle fondateur, je ne pourrais pas être structurant et régulateur de la morale, des mœurs. Dans un pays sécularisé, évidemment, on voit bien que Dieu n'est plus de cet endroit-là. Alors, de quel ordre peut-il être? C'est ça la question. Quel est le Dieu, quelle est la représentation chrétienne de Dieu qui peut rejoindre nos concitoyens laïcs, sécularisés, sur le fond de leur existence, dans ce qui est vraiment en jeu dans leur vie humaine, dans toutes les dimensions qu'il y a. Ça, c'est pour moi, là, c'est ma question. C'est là-dessus que je réfléchis. C'est mon obsession, comme me disent mes camarades. Voilà. Mais je peux difficilement répondre autre chose. À moins que la personne qui a posé le papier rebondisse et précise. Oui. Allez, on peut donner le.
Écoute et dialogue
avec ce que l'esprit exprime, met en mouvement ailleurs, et avec ce que les autres, chrétiens ou non, croyants ou pas, portent de paroles humanisantes, si je peux employer ce terme-là. Parce que la parole humanisante, c'est la parole traduite de Dieu, il n'y a pas d'autre. je vais prendre les interruptions volontaires de grossesse, par exemple. Je lis des choses qui m'énervent aussi. Je suis très, très facilement et souvent énervé, c'est vrai. Et d'abord, la première chose qui m'énerve, c'est que on a l'impression que ça ne concerne que la femme, c'est la femme. Jamais je ne vois en cause l'homme. Comme si les femmes allaient en pharmacie prendre une gélule de spermatozoïde et que l'homme intervienne nulle part. C'est quand même extraordinaire, ça. Et même, quand les femmes s'expriment, elles ne mettent jamais en cause le bonhomme. Quand même, bon, c'est le premier point. Mais donc, je dis, la singularité de la personne, c'est d'écouter. Écouter cette personne, cette femme qui vient, qui pose cette question, dans sa détresse ou sa non-détresse, ou sa non-détresse, enfin bon, la singularité. Et c'est elle qui prendra ses responsabilités au niveau de la singularité. Mais ce n'est pas une affaire singulière au sens de isolée. On devrait pouvoir essayer de comprendre le contexte, la particularité. Pourquoi est-ce qu'elle pose cette question? Dans quel milieu social elle est? Dans quelles conditions économiques? Dans quelles conditions de santé? Dans quelles conditions familiales? Son bonhomme, il y en a un, il n'y en a pas? Comment ça se passe? Bref, essayez de contextualiser les choses pour ne pas simplement dire, ben voilà, bah oui, c'est bon, oui, bah, c'est une bonne femme, elle prend 8 ans, puis tu crois tous les. Allez, terminé. Non. Et au niveau universel, parce que je pense que ça concerne la vie humaine. Je ne dis pas la vie en soi, la vie en soi, moi, il n'y a pas de respect de la vie en soi, mais la vie humaine. Et donc, ça concerne l'humanité en tant que telle. Donc, sur ces questions-là, il faut réfléchir. Quand nous prenons-nous des décisions, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'ensemble de l'humanité, même si les réponses ne sont pas immédiates. Voilà. Mais je pourrais prendre un tas d'autres exemples. Chaque fois, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand la justice marche bien. Je vais prendre un procès d'assises. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est. Accusé d'un meurtre, d'un viol aggravé, ce qu'on voudrait. On fait l'étude de la personnalité, de la singularité. Cet homme, on essaie de l'interroger, on essaie de voir, etc. Et puis, on essaie de comprendre les antécédents, le milieu social, qu'est-ce qu'il a influencé, est-ce qu'il était seul, les circonstances, voilà. La particularité, deuxième truc. Et puis, on juge, parce qu'il faut bien juger. Et que si on ne jugeait pas d'ailleurs, ça serait le mettre en dehors de l'humanité. Donc vous êtes un monstre. On ne vous juge pas. On vous exécute comme vous voulez. Sauf une romaine. Alors que le prendre en compte, lui, dans sa singularité, dans la particularité de son histoire, de toutes les adhérences sociales, écologiques, tout ce qu'il peut expliquer, etc. Puis l'autre côté aussi, bien entendu. Hein. Et puis, on juge. Et on condamne. Mais je prends la peine de mort, par exemple, puisque pendant longtemps, en France, on a appliqué la peine de mort. On l'a aboli grâce à Badinter, Dieu merci. Ben, c'est une portée universelle. Parce que, à partir du moment où la France a renoncé à ça, elle n'était pas la première d'ailleurs, mais il y en a quand même eu d'autres derrière, ça, donc, on voit bien que de ce point de vue-là, la dimension universelle est immédiate. Voilà. Voilà ce que j'appelle l'articulation du singulier, du particulier et de l'universel.
Religieux qui détruit l'homme. Voilà, c'est ça. C'est différent.
quelqu'un que vous connaissez bien, Dietrich Bonhoeffer, qui disait, c'était dans le contexte de la sécularisation, Dieu nous fait savoir que nous avons à vivre devant Dieu, avec Dieu et sans Dieu. D'ailleurs, tiens, il y avait un livre de, comment il s'appelait donc, Jean-Baptiste, économiste, comment il s'appelle, chrétien. Jean-Baptiste Foucault, peut-être, oui, bien autre, quand de chez. Non, ah oui, c'est ça, Michel Foucault, qui avait fait ensemble un livre, intéressant d'ailleurs, montrant comment dans leur responsabilité ils étaient chrétiens. Ils avaient repris cette formule de Bonhoeffer. Et ils avaient écrit « Sans Dieu, D-I-E-U-X ». Donc ils avaient complètement faussé, ils avaient fait ça de mémoire. Et Bonhoeffer ne disait pas « Sans Dieu », c'est-à-dire « Sans idole », mais « Sans Dieu », grand Dieu. Alors, « Devant Dieu ».« Devant Dieu », c'est-à-dire que nous nous situons devant Dieu. « Devant Dieu », c'est-à-dire en vis-à-vis, en face-à-face, en relation, en dialogue. Et sans mettre la main sur Dieu, il y a une distance, un écart, comme on dit aujourd'hui, justement d'ailleurs, avec Dieu. Parce que Dieu est avec nous. C'est une conviction de la foi. Dieu est avec nous. Et sans Dieu. Et sans Dieu, alors là, il y a plusieurs interprétations possibles qui sont toutes d'ailleurs, j'ai leur avis qui vont un peu, qui se renforcent l'une l'autre. Sans Dieu, ça voulait dire sans le Dieu de la tradition, ça c'est clair, sans le Dieu de la religion. Sans Dieu, ça peut vouloir dire aussi, et ça veut dire sans représentation de Dieu qui prétendent faire justement le tour de Dieu, l'annexer en quelque sorte. Donc ça nous renvoie à toute cette dimension mystique du Dieu qui est au-delà de tout ce qu'on peut exprimer de lui-même. Mais j'aime bien cette manière de Bonhoeffer de poser les choses, je la trouve très équilibrée. Parce que devant Dieu, voilà, il y a une distance. Dieu n'absorbe pas l'homme, l'homme n'absorbe pas Dieu. Voilà. C'est donc la condition de nos relations. Avec Dieu, parce que Dieu, même si l'homme n'est pas avec Dieu, Dieu sera avec l'homme. Ça, c'est l'inconditionnel. D'ailleurs, plutôt que de parler de l'amour gratuit de Dieu, moi je préfère parler de l'amour inconditionnel de Dieu, c'est-à-dire sans condition. C'est pas soumis à condition, ni de repentance, ni de rien du tout. Et puis, sans Dieu, parce qu'il y a de fait, on n'a plus la religion comme un puits, ça c'est clair, et en plus, les représentations qu'on a de Dieu sont toujours approximatives, relatives. Donc, alors ensuite. Je suis tout à fait prêt à dire qu'il n'est pas nécessaire à l'homme de croire en Dieu pour être homme, mais je voudrais immédiatement qu'il n'est pas indifférent à l'homme de croire en Dieu. Voilà.
Une dernière. Thank you.